Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, l'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus facile. C'est tous les jours de la semaine jusqu'à midi. Alors Julia, il y a quoi au programme aujourd'hui?
Eh bien, à 11h45 comme tous les jours, il y aura notre rendez-vous avec les bienfaiteurs et bienfaitrices d'Europe 1. Cécile Coumeau d'abord a testé pour nous cette tendance des cures de vinaigre de cidre. Alors est-ce vraiment l'ingrédient miracle pour notre corps, pour réguler notre poids? Elle va nous dire ce qu'elle a pensé de tout cela. Et puis on va retrouver également Edouard Dutour du magazine Elle. Et ce matin, il va nous parler de la mode du do it yourself. Vous savez, le DIY, enfin je ne sais pas comment on le dit, ça fait rire Mélanie. Fabriquer une
Fais-le
table.
Fais-le toi-même. Dites-le en français,
ouais, mais pas moi, mais les autres avec plaisir. Fabriquer une table, customiser une lampe de chevet ou encore coudre des rideaux, c'est hyper tendance. Et il va nous faire un mini mode d'emploi pratique.
All right, Julia. Avant tout ça, le thème qui va ouvrir cette émission sera le suivant. On nous dit partout qu'il faut être éco-responsable dans nos moyens de transport ou encore dans notre consommation. Mais comment être plus écolo à la maison, très concrètement? Donc ce matin, on a décidé de vous donner des tas d'astuces pour mettre plus de verre chez vous, pour faire rimer écologie et économie en famille. Pour faire le tour de ce sujet, nous serons coachés aujourd'hui par Aline Gubry. Elle est conférencière et consultante en transition environnementale. Voici le menu, bien fait pour vous. C'est tout de suite. Let's go. Vous êtes sur Europe 1, allez, on va voir ce matin ensemble comment rendre notre quotidien plus vert, plus respectueux de la planète, mais sans que ce soit trop compliqué. Et avant d'en discuter avec notre experte, on va déjà consulter notre expert de l'humour, notre cher Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Attendez, je garde ma moto, j'arrive. Eh oui, je ne suis pas le plus écolo.
Non,
est-ce qu'il y a des écolos dans le studio?
Non.
On essaye, on fait tous la même chose, on fait des gestes pour être écolo, mais c'est dur. Franchement, c'est dur au quotidien de se dire vraiment écolo, donc je respecte ceux qui, à 100%, tiennent leurs engagements. C'est vrai qu'on connaît les bases, hein. Moi j'essaie de boire l'eau du robinet plutôt qu'à la bouteille, j'essaye de ne pas prendre l'avion pour un week, pour un an, la preuve, je suis venu en moto, j'aurais pu venir en avion, la voiture, j'essaie de me déplacer à vélo de temps en temps, de plus manger de viande, moins de poisson, de manger local, de couper la lumière derrière moi en disant « c'est pas Versailles ici !» Voilà, de limiter... Il paraît les nombres d'applis sur son portable. Ça use plus de batterie, donc on recharge plus. Et ça abîme la planète. J'essaye aussi de me désabonner des newsletters parce qu'il paraît que les mails, ça pollue énormément.
Oui,
c'est pour ça que je ne réponds pas quand la direction me dit « Tu peux me répondre et me renvoyer ça pour 18h ?» Je ne réponds plus du tout.
Je suis écolo, c'est pas que je ne veux pas vous répondre.
Exactement. Mais on essaie de fabriquer sa lessive, ça devient compliqué. Son shampoing, son dentifrice, débrancher tous les appareils en veille, acheter des choses seconde main. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, c'est pas simple de se dire écolo. Et quand même, tu fais tout ça, il y a toujours des écolos qui viennent et qui disent « mais pourquoi tu fais ça ?» et qui remettent en cause. Et oui, on va parler des paradoxes des écolos. C'est vrai que c'est bizarre parce que, par exemple, tu prends plus de bain. Et ça arrive à beaucoup de gens de dire « je ne prends plus de bain ». Mais quand on prend la douche, on la laisse couler 5 minutes avant, vous savez, avant d'arriver. C'est pas plus écolo. Tout est paradoxe. Hein. Par exemple, autre paradoxe que font beaucoup de gens, c'est acheter du « made in France
».
Mais sur Amazon.
N'importe quoi.
Et ouais, paradoxe encore une fois. Parler du réchauffement climatique, mais ouvrir la fenêtre alors qu'il y a le chauffage en disant non mais j'aère. Non, manger des plats véganes, mais se faire livrer.
Paradoxe encore une fois.
Ou encore faire une leçon de morale à un pote pour son empreinte carbone alors que t'as 3 enfants. Voilà. Le vrai premier truc, là où je suis écolo.
C'est là où vous avez été écolo en fait.
C'est que j'ai pas d'enfants et à ma façon je sauve la planète. Excusez-moi d'être venu en moto.
Merci Clément pour cette entrée en matière. On va s'y atteler vraiment maintenant à ces trucs écolo qu'on peut mettre en place pour de vrai et sans se prendre la tête. On va voir tout ça avec vous Aline Gubry. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes conférencière, consultante en transition environnementale. Et vous êtes également l'auteur du livre « Écologie pratique pour parents débutants » aux éditions First. Alors, l'écologie, on voit ça souvent comme des petits gestes du quotidien, le tri de déchets, les transports en commun ou en vélo, par exemple. Mais en fait, ça peut être aussi un mode de vie global que l'on fait en famille, par exemple. C'est comme ça que vous le voyez, vous,
Un mode de vie, je ne sais pas. Dans le sens où on peut garder une vie classique, la vie qu'on a actuellement. Simplement, on va acheter la même chose, mais un peu différemment. On va préférer acheter les mêmes meubles qu'on aime bien, mais d'occasion plutôt que neuf. Ça fait faire des économies aussi au passage. On va continuer à partir en vacances, mais peut-être de façon plus proche, avec plutôt en train plutôt qu'en avion, etc. On peut garder une vie normale, entre guillemets.
Mais on adapte un peu, c'est ça ?
Exactement. Tout à fait.
Le slow tourisme, hein, c'est ça que vous vantez peut-être,
oui. Oui, ou en tout cas choisir des destinations magnifiques, mais qu'on a en Europe ou pas loin. L'objectif, c'est de choisir ce qui vous plaît, ce qui vous correspond à vous, jamais sans pression, jamais en culpabilisant.
Et jamais sans plaisir aussi, c'est
ça. Exactement, ouais. Tout à fait. On peut être à la fois faire des vacances écologiques tout en passant un merveilleux moment et...
C'est pas forcément
plaisir.
Une vie de monastère, hein,
exactement,
c'est ça.
D'accord. Tout à fait.
Alors, vous écrivez des rubriques sur l'écologie et la parentalité pour le magazine Parents. Il y a 20 ans, une telle rubrique, ça n'existait même pas. Est-ce qu'il y a une vraie demande des familles qui vous lisent en général, justement, pour être plus écolo? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous observez?
Oui, oui, très clairement, que ce soit parents ou non, il y a clairement une prise de conscience à la fois sur les enjeux environnementaux, mais aussi et surtout sur le rôle que nous, on peut jouer en tant que citoyens, en tant que consommateurs. On a un rôle énorme à jouer, que ce soit de façon directe sur nos propres impacts environnementaux ou que ce soit de façon plus globale sur participer à augmenter la demande pour des produits, des services plus éco-responsables. Mmh. Et donc, les entreprises ont un intérêt évident et direct à répondre à cette demande croissante. On le voit, par exemple, dans nos rayons sur les alternatives sans plastique, par exemple. Ça, c'est grâce à nous, entre guillemets, qui demandons massivement de plus en plus ces alternatives-là.
C'est parce que nous sommes plus nombreux à avoir cette demande que les rayons grossissent, hein, c'est
exactement.
Ça, de ce type de produits.
Et que ça devient la norme de demain. L'objectif, c'est que demain, il soit normal et donc très facile de trouver les produits qui aujourd'hui sont un peu alternatifs et parfois malheureusement encore difficiles à trouver.
Et puis attendez, être écolo en 2023, c'est pas juste dans la cuisine hein, que ça se passe, c'est dans toutes les pièces de la maison, Mélanie, de la chambre du bébé à la salle de bain, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Il y a mille et une façons de faire sa transition environnementale. L'objectif, c'est pas de tout faire, hein, comme je répète tout le temps dans mes livres, c'est vraiment pas de pression. Mais on peut faire plein de choses. On peut s'attaquer, et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus prioritaire, s'attaquer en priorité aux grosses sources d'impact environnementaux. C'est-à-dire que plutôt que de faire le tri dans nos mails, ce qui est un des impacts très anecdotiques, on va plutôt s'attaquer à l'avion, à manger moins de viande, à acheter le plus d'occasion possible plutôt que neuf. Il faut savoir qu'en moyenne, un kilo d'objets manufacturés neufs, ça aura généré en moyenne 71 kilos de déchets pendant sa fabrication. Ça, ce sont des impacts environnementaux qu'on ne voit pas, mais qui dépendent directement de nos choix d'achat au quotidien. Donc, on peut avoir un impact positif énorme avec simplement un ou deux achats de temps en temps.
Oui, non, donc finalement, nos choix de citoyens ont un impact lourd. Hein. Sur votre site Consommons sainement, j'allais dire maintenant, mais sainement maintenant, c'est les deux vont ensemble, vous ne mettez pas la pression. Hein. Vous nous donnez souvent plusieurs alternatives, on va dire de la moins écologique à la plus responsable. Est-ce que c'est devenu plus simple quand même d'être écolo, justement, en 2023, moins frustrant, moins compliqué, qu'il y a même 10 ans, peut-être ?
En fait, ça dépend de la démarche qu'on adopte. C'est-à-dire que moi, ce que je répète tout le temps, c'est pas de pression, ça vous l'aurez compris. On fait la transition comme on peut et il faut respecter trois règles d'or. La première, c'est, comme je disais tout à l'heure, s'attaquer aux principales sources d'impact environnementaux. C'est-à-dire qu'en choisissant deux ou trois actions efficaces, on va dépenser beaucoup moins d'efforts et de temps et pourtant, on va avoir un impact positif bien plus grand que si on s'acharne à acheter une brosse à dents en bambou, à fabriquer son maquillage soi-même, etc.
Ça, c'est tout petit, en fait, comme impact.
Exactement.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais...
Exactement. Ouais. Ce sont des impacts qui sont vraiment minoritaires et très, très anecdotiques. Donc, pas du tout prioritaires dans les actions à choisir. La deuxième règle d'or, c'est vraiment aller au plus simple. Il ne s'agit pas de devoir traverser toute la ville pour trouver le produit en vrac qu'on cherche, etc. Ce n'est pas grave. On fait en fonction de ce qu'on a à côté de chez soi, on fait en fonction de ce qu'on peut, de ce qu'on veut aussi, en fonction de ses préférences, en fonction du temps qu'on a. Si on a des enfants à la maison, tout n'est pas possible. Je parle d'expérience.
Ça va, vous êtes réaliste, ça nous rassure.
Exactement. Et la troisième règle d'or, c'est de ne pas chercher à tout changer du jour au lendemain. Moi, quand j'ai fait ma transition, il m'a fallu au moins un an. Et encore dans les années d'après, j'ai continué à faire de plus en plus de choses.
Et vous n'étiez pas du tout écolo avant ?
Il y a 8 ou 9 ans, ouais. Non, pas du tout.
Genre,
dans le sens où j'étais sensible aux enjeux environnementaux, mais je pensais qu'à mon échelle, je ne pouvais rien faire, à part trier mes déchets, signer des pétitions de temps en temps et faire des dons à des associations. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle?
Est-ce que justement, on sait si les Français sont de plus en plus éco-responsables? Est-ce qu'ils ont acquis ces réflexes dont vous parlez sur le terrain?
On a des chiffres qui en témoignent?
De plus en plus, oui. L'environnement, c'est une des principales préoccupations des Français aujourd'hui. Il faut encore que ça se traduise plus dans les comportements du quotidien. Et de plus en plus de personnes sont demandeurs et commencent à agir à leur échelle. Justement parce qu'on s'aperçoit de l'impact énorme qu'on peut avoir. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout doit reposer sur nous, consommateurs. C'est juste qu'on a notre rôle à jouer pour réduire directement nos principaux impacts environnementaux en douceur et sans pression.
Justement, donc évidemment, on a un rôle à jouer, mais parlons un tout petit peu de ces grandes marques qui, elles aussi, ont un gros rôle à jouer. Vous avez donné des conférences, vous, pour des grandes marques comme Ikea, même Chanel. Est-ce qu'il y a un mouvement de fond quand même sur ces questions environnementales, même à ce niveau-là, dans ce monde-là?
Oui, tout à fait. Moi, je donne des conférences dans les entreprises sur tout ce qu'on peut faire à notre échelle, que ce soit dans notre vie privée ou vie professionnelle. Il y a de plus en plus la norme de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, sociale et environnementale. Ça devient de plus en plus normal. Après, malheureusement, pour les grandes marques, on a aussi du greenwashing, qui est un peu l'effet péjoratif de la demande grandissante de produits plus sains et plus éco-responsables.
Alors, greenwashing, rappelez-nous, c'est genre on se fait passer pour écolo et en fait, c'est pour faire du marketing.
Exactement, c'est du marketing trompeur où on va trouver sur des lingettes pour bébé, par exemple, à l'extrait bio naturel de citron.
Ça mais reste
en réalité,
qui va
c'est une lingette jetable de fibres plastiques avec 20 ingrédients, dont 3 ou 4 qui sont très polémiques.
Alors,
pour les bébés,
un gant et de l'eau, ça marche très bien.
Exactement, c'est ce que je dis dans mon livre. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour nettoyer les fesses d'un bébé avec une peau saine que de l'eau, tout simplement. C'est tout.
Allez, très bien, c'est clair. On y revient dans un instant. On tente ce matin de voir comment concilier vie de famille, vie de parents et respect de l'environnement. On va vous donner des solutions très concrètes et le tout sans aucune pression ni frustration. On se retrouve dans quelques minutes pour en parler sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre, on vous éclaire aujourd'hui sur la façon de concilier vie de famille, paisible et écologie. On fait le point avec Aline Gubry, vous êtes, bonjour, conférencière, consultante en transition environnementale et auteure du livre Écologie pratique pour parents débutants et c'est paru aux éditions First. Alors dans votre livre, vous dites qu'on peut concilier l'arrivée d'un bébé avec le respect de l'environnement. Pourtant, nous, comme ça, ça nous paraît carrément impossible entre les couches, franchement, les petits pots, les vêtements qui sont vite trop petits. Mais
vous en souvenez bien quand même, pourtant ça date chez vous.
Mais moi, je n'étais pas du tout bio-responsable avec mon fils. Il n'est pas du tout... j'y suis pas arrivée, quoi. Et comment vous faites, vous? C'est quoi? C'est la récup? Qu'est-ce que vous préconisez à l'arrivée d'un bébé?
Alors, il y a des principes simples et généraux qui s'appliquent qu'on ait un bébé ou non. Ça va être tout d'abord essayer d'acheter le moins possible neuf. Ça ne veut pas dire ne plus consommer du tout, évidemment. Ça veut dire s'orienter plutôt vers les achats d'occasion, sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc.
Mais comment on fait avec les cadeaux de naissance?
Les cadeaux de naissance, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Malheureusement, il faut laisser aller là-dessus. Mais sur les choses que nous, on peut contrôler, on peut s'orienter vers la seconde main, on peut s'orienter vers la location. Il y a la location de jouets, par exemple, qui existe.
Même de vêtements, je crois.
De vêtements, tout à fait. Il y a le reconditionné, c'est-à-dire pour des poussettes, par exemple. Il y a le site Bicou qui propose des poussettes d'occasion qui sont testées, réparées
Bicou,
si besoin.
Bicou, vous l'écrivez comment?
B2ICOU.
D'accord.
Et donc, vous avez une poussette d'occasion, mais qui est contrôlée, nettoyée et sous garantie. Et là aussi, ça fait faire des économies. Vous pouvez réparer, vous pouvez fabriquer vous-même très facilement des jouets, des activités ludiques, de la pâte à modeler, etc. Tout ça, ça permet d'acheter moins neuf. Donc ça fait faire des économies et c'est plus écologique. Vous avez aussi des principes généraux, c'est-à-dire passer du jetable au réutilisable. Alors, sans pression. Hein.
Vous parlez de quoi? Pas les couches, quand
les
même.
Cotons. Alors, les couches, il existe des couches lavables, il existe des couches semi-lavables.
Ça veut dire quoi, semi-lavables?
Elle est un peu cracra, mais pas trop.
C'est-à-dire que la couche extérieure, qui est habituellement composée de plastique pour être imperméable, va être lavable. En revanche, vous y clipsez à l'intérieur un insert jetable. Donc c'est lui qui absorbe les déchets, vous le jetez et vous lavez avec le reste de votre linge la couche.
Il y a même des
entre-deux
alors qui existent.
Exactement.
Maintenant, c'est bien.
Et on peut faire aussi du lavable à la maison, mais du jetable à l'extérieur, etc. Vraiment sans pression.
Vous n'êtes pas contre la nuance et des mélanges de choses en fait, hein, c'est ça aussi. On n'est pas obligé d'être tout jetable.
Exactement.
Ou tout
il
n'y
a pas à choisir entre les deux. On fait en fonction de ce qu'on peut, de ce qu'on veut. Et en fonction de si les grands-parents n'ont pas envie d'utiliser du lavable, eh ben c'est pas grave.
C'est pas grave. Alors justement, on va continuer à parler de ça. On a en ligne tout de suite Lola, qui est une maman solo et écolo. Bonjour Lola.
Bonjour.
Alors vous avez 26 ans, vous êtes étudiante et vous avez une chaîne YouTube Lola Vegan Life sur laquelle vous parlez d'écologie et de votre vie de maman aussi, puisque vous avez un tout petit garçon. Et je crois qu'avant même sa naissance, vous aviez décidé de concilier, c'était important pour vous, maternité et écologie. Pourquoi cet enjeu crucial pour vous?
Eh bien, en fait,
j'ai été bébé en même temps. Excusez-nous.
Ah oui, oui. Il est en train de manger à côté de moi. C'est pour que j'aie une minute au calme.
Très bien.
Donc, moi, j'étais dans une démarche écologique bien avant de devenir maman, et du coup, pour moi, ça a été clairement une évidence d'allier les deux. Et c'était important pour moi de pouvoir continuer à vivre en accord avec mes valeurs, mais aussi de, à travers cette vie écolo, de transmettre ces valeurs-là à mon fils.
C'est mignon, vous avez un supporter bien vert derrière. Hein. Est-ce que tous les jours c'est facile à gérer ce quotidien? Est-ce que ça demande, je ne sais pas, beaucoup d'anticipation pour les biberons, les repas? Surtout que je crois que vous gérez ça toute seule en plus.
Oui, effectivement. Alors, dans un certain sens, oui, et dans un certain sens, non. Alors, c'est parfois un peu compliqué au quotidien dans le pratique, parce que il faut allier le timing, il faut faire attention aux siestes, aux repas, tout ça, et puis du coup, pour aller faire les courses, par exemple, faut toujours trouver le moment clé pour que ça se passe de manière plutôt calme. Donc, c'est pas toujours super facile. Et par exemple, mon magasin zéro déchet aussi est à 45 minutes de chez moi, du coup, pour moi, c'est plus du tout possible. Ce qui avant était totalement facile de le faire quand on était seul, de se prendre une après-midi pour aller faire les courses. Maintenant,
là,
avec un
possible,
bébé, c'est vrai que c'est plus compliqué.
Et comment vous
c'est
allez faire quand il va être grand? Vous allez l'élever, votre enfant, avec ce mode de vie-là? Comment vous allez lui transmettre, l'initier à tout cela? Est-ce que vous avez déjà pensé à ces questions?
Oui, bien sûr. Je pense que les enfants nous observent dès tout petit et ils commencent déjà maintenant à m'observer au quotidien et à voir du coup toutes les petites habitudes qu'on instaure chez nous dans notre vie de famille. Et je pense que c'est important de l'impliquer le plus possible du coup dans les tâches du quotidien et aussi dans les décisions qu'on fait, les décisions écologiques, les sensibiliser le plus tôt possible sans trop simplifier parce qu'ils sont capables de comprendre beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, l'impliquer au quotidien et dans des trucs concrets. Comme par exemple, si on a la chance d'avoir un jardin, peut-être dans un potager, aller voir des animaux et être le plus possible dehors et du coup vraiment le sensibiliser à ce genre de questions.
Merci beaucoup Lola d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1 et je rappelle votre chaîne YouTube Lola Vegan Life. Merci. Alina, votre livre Écologie pratique pour parents débutants, vous nous dites qu'il existe des moyens même d'allaiter éco-responsable. Alors moi quand on dit allaiter, je pense forcément au sein. Je dis oui, le sein c'est écolo, mais comment on fait quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas donner le sein à son enfant?
Alors, quand on utilise des laits infantiles du commerce, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, le lait en lui-même, on peut le choisir si on peut et si on veut, de préférence certifié biologique pour avoir un lait de vache qui vient de pratiques agricoles plus éco-responsables. On va aussi privilégier ceux qui sont fabriqués en France, si on habite en France, et si possible, sans huile de coco ou huile de palme, qui ont vraiment une culture particulièrement polluante. Et puis aussi, et principalement, la grosse action à faire, c'est là aussi acheter le moins neuf possible. Et ça passe notamment par se passer des gadgets inutiles que le marketing est capable de nous vendre comme le nouveau gadget miracle pour la préparation des biberons, la machine qui ressemble à une machine à espresso,
le stérilisateur alors qu'on ne fait plus a priori.
Alors que ça s'est passé. Le marketing dans le secteur de la puériculture est très fort pour nous inventer de nouveaux besoins. Le problème, c'est que...
J'avais acheté une poubelle à couches à l'époque et j'ai trouvé trouvé que c'était vraiment le truc le plus inutile. J'avais une poubelle, sinon, hein, par ailleurs.
Très bon exemple. Ouais. Le problème, c'est que la fabrication de tous ces objets-là, souvent en plastique, souvent électrique, électronique, va avoir des impacts environnementaux énormes, sans parler des dépenses. Donc vraiment, se passer de ces objets-là, c'est une des actions prioritaires. Côté biberon, vous vous en doutez que je vais vous dire, les biberons en plastique, c'est pas top, surtout pour la santé du bébé. Même quand c'est dit 100 BPA, faut savoir que, un, c'est une obligation légale en France, donc c'est pas un engagement spécifique de la marque. Deux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres composants aussi nocifs dans le plastique.
Qui seront peut-être interdits dans 3-4 ans, en plus, donc on va aller savoir.
Exactement.
Et pour la toilette du bébé, qu'est-ce que vous pouvez préconiser ? Ça, c'est une vraie question.
Là aussi, c'est ce que j'appelle dans le livre le minimalisme réaliste. C'est-à-dire, on va se passer des nombreux crèmes, lotions, laits nettoyants de change, etc. Tout ça, en réalité, leur usage quotidien n'est pas du tout justifié.
Mais s'ils ont, par exemple, l'érythème fessier, les fesses toutes rouges, qu'est-ce que vous leur mettez ?
Alors, sur une peau saine, on peut utiliser seulement de l'eau, c'est tout, au quotidien. Et quand il y a un érythème, on peut, là, par contre, pour le coup, utiliser une crème anti-érythème. Mais il faut savoir qu'en prévention de l'érythème, il n'y a pas besoin de produit. Simplement, changer la couche le plus souvent possible.
Même le liniment, qui est très à la mode, vous n'êtes pas pour ?
Alors, c'est très à la mode.
Alors, liniment, je précise pour ceux qui ne sauraient pas, c'est, en gros, je crois, de l'eau de chaude, de l'huile d'olive. Quoi,
oui,
en fait,
tout à fait, et de la cire pour lier les deux. Je donne une recette maison dans mon livre. Personnellement, moi, j'ai arrêté rapidement de l'utiliser parce que c'est pas compatible avec les couches lavables. Ça risque de les encrasser. Et puis, en fait, c'est pas nécessaire. Juste de l'eau, du robinet, ça suffit largement. Il n'y a aucun risque, c'est aucun impact environnemental et aucune dépense aussi, au passage.
Et là, on parlait des bébés, mais pour nous, qu'est-ce que vous pensez de tous les produits solides ? On en parle souvent dans l'émission, c'est la grande tendance, les produits de beauté solides. Est-ce que c'est aussi efficace ? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire à certains endroits ?
Alors, il faut savoir que le format d'un produit ou son emballage n'est absolument pas une garantie sur son innocuité pour la santé ou son côté écologique. On peut avoir des grandes marques aujourd'hui qui nous proposent des shampoings solides mais bourrés d'ingrédients polémiques pour la santé et pour l'environnement. De façon générale, qu'on parle de cosmétiques ou non, la très grande majorité des impacts environnementaux et des risques sanitaires d'un produit ne vient pas de son format ni de son emballage, mais vient du produit lui-même et des ingrédients, des procédés de fabrication qui ont été utilisés. Donc, quand on veut un cosmétique plus sain et plus écologique, on va plutôt s'orienter vers des labels fiables comme Cosme Bio, Slow Cosmétique, etc., qui, eux, vont s'attaquer aux ingrédients qui sont utilisés, etc. Et là, vous avez de vraies garanties.
Eh bien, merci à vous. On va continuer cet entretien. On s'intéresse à la vie de famille ce matin, mais une vie de famille plus éco-responsable, car c'est à la portée de tous. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne concrètement au niveau du porte-monnaie d'être plus écolo au quotidien ? On vous explique tout ça dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Merci d'écouter Europe 1. On est toujours en train de s'intéresser à la vie de famille, la vie de parents. Comment faire pour la rendre plus écolo, mais sans que ce soit lourd, sans que ça augmente encore un peu plus cette fameuse charge mentale. Alors notre guide sur ce sujet, c'est toujours vous, Aline Gubry, conférencière, consultante en transition environnementale. Alors est-ce que sur le long terme, parce que c'est une question importante, est-ce que être éco-responsable, ça permet de faire vraiment des économies, de dépenser moins d'argent en tout cas ? Je crois que vous avez fait un TED Talk sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il en ressort précisément ?
Alors oui, on pense souvent que l'écologie rime forcément avec grosses dépenses et donc gros budget. En réalité, pas forcément. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Écologique sans me ruiner » avec 101 actions qui sont à la fois écologiques et économiques. En fait, on va acheter d'occasion, on va moins consommer de façon générale, c'est-à-dire éviter les gadgets inutiles dont on parlait tout à l'heure, etc. On va remplacer tous ces produits ménagers par trois ingrédients à la fois naturels et très bon marché. Pareil pour les cosmétiques, etc. En fait, tout ça mis bout à bout, ça fait faire énormément d'économies, jusqu'à 6 000 euros par an la première année. Et personnellement, j'utilise ces économies pour pouvoir me permettre financièrement des actions écologiques qui, elles, coûtent plus cher. Par exemple, acheter plus d'aliments biologiques, acheter des cosmétiques de meilleure qualité, etc. En fait, c'est un vase communicant. Et globalement, être plus écologique m'a fait faire énormément d'économies.
Mais ce qui est bien avec votre blog, Aline, c'est que vous dites que toutes les astuces écolo ne sont pas forcément bonnes à prendre, comme par exemple cuisiner nos épluchures. Ça me rassure parce que j'y aurais jamais pensé. Pourtant, c'est objectif zéro déchet. Pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de cuisiner ces épluchures?
Alors, pour pas mal de raisons. Tout d'abord, si les épluchures sont comestibles, bah, autant les manger directement sur la pomme de terre ou la carotte ou le concombre. Mais si vraiment on ne veut pas le consommer avec, il faut savoir que quand un fruit ou un légume n'est pas issu de l'agriculture biologique, une grosse partie des résidus de pesticides sont présents
sur la peau. Eh oui.
Donc, ces recettes-là, si vraiment vous voulez les faire, devraient être faites uniquement avec des fruits et légumes certifiés biologiques et très bien lavés sous l'eau et à la brosse avant.
Même quand c'est biologique, alors ?
Même quand c'est biologique, oui. Et deuxièmement, surtout, ce sont en fait des déchets très anecdotiques. On va avoir relativement peu d'épluchures, surtout si on préfère le consommer directement sur le fruit ou sur le légume. Il vaut mieux passer son temps à cuisiner des sources végétales de protéines, par exemple les légumineuses, les lentilles, etc., pour éviter de manger trop de viande trop souvent. Ça va avoir un impact environnemental positif bien plus grand pour le même temps et la même énergie passée en cuisine.
D'ailleurs, quand on fait ces courses-là, on parle du bio ou du non-bio, enfin du conventionnel, est-ce qu'il vaut mieux ? Parce que moi, j'ai vu dans mon supermarché des produits bio, 4 belles pommes hein, bio, mais alors emballées dans plastique, une tonne de plastique. Et à côté, il y a des produits conventionnels, non-bio, qui ont l'air tout aussi bons, pour le coup, si je l'épluche, admettons, la pomme. Qu'est-ce qui est mieux ? Le vrac conventionnel ou le bio sur-emballé ?
Alors oui, c'est assez rageant de voir du bio sur-emballé, mais paradoxalement, le plus écologique en moyenne, ça va être le bio malgré son suremballage. Pourquoi ? Parce que la majorité des impacts environnementaux de nos produits, qu'ils soient alimentaires ou non, viennent de leur fabrication, du produit lui-même. Là, en l'occurrence, ça va être les pratiques environnementales qui ont été utilisées pour cultiver cette pomme. Donc, en moyenne, malgré son emballage qui, lui, a un impact environnemental, certes, mais bien moindre, il va falloir choisir la pomme bio malgré son suremballage.
Bon, qu'on mettra dans la poubelle à recyclage de toute façon, évidemment, cet emballage.
Mais vous cuisinez pas les épluchures, Mélanie ?
Non, moi je les mange.
Bon, c'est la meilleure chose à faire. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a tout un marché aussi du greenwashing, etc. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus, parce qu'il y a marqué écologique sur un produit, acheter les yeux fermés. Est-ce qu'il y a tout de même des labels dans le commerce en qui on peut avoir entièrement confiance ? Je sais que vous les partagez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, justement ?
Oui, alors, il faut se méfier des termes très vagues comme écologique ou naturel. D'accord, mais pourquoi est-ce que le produit est écologique ? En soi, ça n'apporte aucune garantie. C'est pour ça qu'il vaut mieux se tourner vers des labels fiables, et je précise fiables parce que tous ne le sont pas. Pour les cosmétiques, on va avoir par exemple Cosme Bio, Slow Cosmétique, EcoCert, qui marche lui aussi pour les produits ménagers. Et celui que j'aime bien recommander, c'est l'écolabel européen. Parce qu'il est à la fois fiable et il s'applique à plein de produits de notre quotidien, que ce soit les produits ménagers, les mouchoirs, les couches, les peintures, un peu tout dans notre quotidien.
On peut y aller les yeux fermés, a priori.
Oui, alors il reste des impacts environnementaux parfois importants, mais en moyenne, ça va être des produits beaucoup plus écologiques. On n'a pas besoin de décrypter toutes les étiquettes, etc. Malheureusement, nous, en tant que consommateurs, on a très peu d'informations qui nous permettent de savoir si le produit est vraiment écologique ou pas. Ces labels-là répondent en partie à ce problème.
Alors, je vous avoue que comme j'aime pas du tout me prendre la tête à décrypter les étiquettes, moi, je fais mes courses en utilisant Yuka en permanence. Donc, j'ai le téléphone à main pour scanner l'application Yuka pour me dire si c'est bon pour moi, pour la planète. Il y en a d'autres peut-être que celle-ci, pour peut-être même qui serait plus fiable, je ne sais pas, à utiliser justement pour éviter d'avoir à lire tout le charabia derrière les produits.
Alors oui, pour les cosmétiques, que ce soit bébé, enfant ou adulte, je recommande dans le livre l'étude qui a été faite par UFC Que Choisir, qui a analysé plus de 140 000 produits cosmétiques vendus en France. Et vous n'avez qu'à remplir le nom du produit avec la marque. Et ça analyse tous les ingrédients et ça vous dit si c'est toxique ou pas, en fonction aussi du public. Si c'est un bébé, par exemple, Les bébés sont beaucoup plus sensibles aux perturbateurs endocriniens, donc certains produits ne devront pas du tout être utilisés sur un bébé, mais seront plutôt OK sur un adulte.
D'accord.
Donc ça, c'est entièrement gratuit. C'est sur UFC que choisir. Et vous avez 140 000 produits. Donc,
oui.
A priori, il y a ceux que vous avez dans la salle
consommez,
de vin.
C'est sûr.
Moi, j'ai une passion, c'est le ménage. Est-ce que vous avez des produits ménagers, évidemment justement, non, vous dites que les produits ménagers dans le commerce,
on peut s'en passer.
On peut s'en passer et qu'il y aurait trois produits vraiment indispensable à avoir dans son placard à ménage. Lesquels sont-ils ?
Ouais. Alors, les produits ménagers conventionnels, c'est une des principales sources de pollution de notre air intérieur. Et là aussi, les enfants sont particulièrement sensibles à ces produits polémiques-là. Et donc, en réalité, il y a trois produits qui remplacent tous ces produits ménagers-là. On a le bicarbonate de soude, qui se trouve au rayon sel et poivre de tous les supermarchés.
Ça, c'est bon. Ensuite,
ça s'utilise pour nettoyer les baignoires, les éviers, etc.
C'est
ça absorbe même les odeurs.
Ouais.
Exactement, mais c'est un abrasif doux, donc il n'abîme pas.
Vous le mélangez avec des trucs ou vous le mettez
alors,
juste comme ça?
Vous prenez une éponge ou un chiffon mouillé, vous mettez une poignée de bicarbonate et vous nettoyez votre évier.
Et
ça enlève
nickel.
Tous les résidus gras, etc.
De calcaire aussi.
Sans frotter.
Et pas d'odeur dégueu.
Et aucune odeur. Mmh. Aucune.
Et après, vous rincez
avec de l'eau. En deuxième, vous avez l'acide citrique ou
ça,
le vinaigre blanc.
Non, moi,
vinaigre blanc, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'odeur.
Oh,
donc l'acide citrique est tout aussi efficace et un peu plus grand public.
Vous le diluez, le vinaigre blanc ou pas?
Alors, non, le vinaigre blanc s'utilise tel quel si on veut détartrer, par exemple, une bouilloire, etc. Mmh. Et s'utilise à moitié eau, moitié vinaigre blanc dans une bouteille spray pour nettoyer le plan de travail.
Ouais.
Et
ça marche bien,
etc.
Ça.
Et ça marche très bien parce que son acidité naturelle va le rendre à la fois anticalcaire et antibactérien. Pour l'acide citrique, vous prenez une bouteille spray, vous remplissez ça d'eau.
Ça se trouve où? Parce que je ne l'ai pas vu au supermarché, celui-là.
Vous mettez quelques cuillères d'acide citrique. Alors, ça se trouve dans tous les magasins biologiques.
Mm-hmm. Vous pouvez le commander
et dans certains supermarchés aussi.
Non,
et sur Internet.
Non, c'est une vanne. On ne peut pas commander sur Internet.
Ah bah, on peut.
Ah bon
on peut, bah oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas trouver, surtout si on habite en milieu périurbain ou rural. Ah non, absolument pas.
Et c'est quoi le troisième produit?
Et le troisième produit, c'est le savon noir liquide. Si possible, certifié Ecocert, parce que là aussi, il y a pas mal de greenwashing dans les supermarchés pour le savon noir. Et ça, vous l'utilisez tel quel comme liquide vaisselle. Il n'y a pas besoin de vous embêter avec des recettes de liquide vaisselle qu'on peut trouver sur Internet. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme nettoyant pour le sol. Vous mettez une ou deux cuillères dans un demi-seau d'eau chaude pour nettoyer le carrelage ou le parquet synthétique. Ça marche très bien.
Donc, trois produits et on est repeint.
Et avec ça, vous nettoyez toute la maison.
Allez, puisqu'on est sur le ménage, on va terminer par cette question d'une auditrice. C'est Marie sur Insta qui vous demande « Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire sa lessive ?» Vous avez plus ou moins répondu soi-même. « J'ai lu que ça encrassait notre machine à laver. » Est-ce que vous avez un avis là-dessus? On répond rapidement à Marie.
Alors, moi, je ne conseille pas tellement de le faire parce que d'abord, on va être sur un impact environnemental très anecdotique. On peut trouver des lessives très bien dans le commerce, très bien d'un point de vue environnemental et sanitaire. Et par ailleurs, on ne va pas se le cacher, ça prend quand même pas mal de temps et d'énergie que je préfère utiliser pour m'attaquer à des impacts environnementaux bien plus importants dont on parlait tout à l'heure.
Si j'ai une petite dernière question, Aline, sur votre blog, on apprend plein de choses assez inattendues. Par exemple, que votre portable, enfin que le nôtre aussi d'ailleurs, utilise moins d'énergie quand il est sur le Wi-Fi que quand il est en 4G. C'est vrai ça?
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a énormément d'impacts environnementaux qui viennent de nos activités numériques. Et non, faire le tri de ces mails n'est pas la meilleure façon de le réduire. C'est en réalité très anecdotique, surtout s'il n'y a pas de pièces jointes. En réalité, on va préférer réduire la définition des vidéos qu'on regarde en ligne. On va préférer envoyer moins de vidéos, ou là aussi, envoyer de...
Et se mettre en Wi-Fi.
Et se mettre en Wi-Fi, ouais, ça dépense jusqu'à 25 fois moins de données. Que en 4G.
Bon, je crois qu'on est pas mal. On a fait le plein d'astuces là.
Oui,
on est bien. Merci beaucoup.
Et ça nous a pas coûté cher pour
non,
le moment.
Pas du tout. On va mettre tout ça en pratique. Merci pour ce petit cours d'écologie pratique. Il y a effectivement plein de petites choses pas bien compliquées qu'on peut mettre en œuvre, y compris quand on a des enfants. Je rappelle votre livre, Aline, sur le sujet écologie pratique pour parents débutants aux éditions First. Merci.
Merci à vous. Dans quelques toutes petites minutes, bien restez avec nous. On va retrouver la crème de la crème des chroniqueurs, les bienfaiteurs d'Europe 1. On va faire le point sur cette grosse tendance. Tout le monde exemple, veut tester les cures de vinaigre de cidre. Alors, ce serait le nouvel allié pour mieux réguler notre poids. Cécile Coumeau a enquêté pour nous sur ce sujet. Et puis, on va aussi parler de la mode du do-it-yourself.
C'est écolo, ça aussi.
DIY. Voilà, mais en déco. Ça sera le thème de la chronique d'Edouard Dutour sur Europe 1. Alors, à tout de suite, restez bien à l'écoute.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission du matin qui vous veut simplement du bien. Nous avons été rejointes par deux de nos bienfaiteurs qui vont partager avec nous leurs bons conseils. Bonjour Edouard Dutour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Attendez,
bonjour.
Si j'ai bien compris, on n'a plus besoin de courir les magasins de meubles type Maison du Monde ou Ikea. Vous avez une autre solution.
Ouais, la grosse tendance, c'est le fait main, c'est le bricolage. Même moi, je m'y suis mis. Je vais tout vous raconter.
On va fabriquer son propre canapé.
On va fabriquer sa propre décoration. Wow. Exactement.
Bon, on est très écolo aujourd'hui. Ouais. Hein, c'est vraiment la tendance de l'émission. On va voir ce que nous présente Cécile Coumeau, peut-être que là aussi c'est écolo. Aujourd'hui, vous êtes intéressé à un produit très tendance, le vinaigre de cidre. Il serait bourré de vertus. C'est en tout cas ce que nous disent les publicités et vous avez donc voulu mener l'enquête.
Oui, oui, c'est vrai qu'on prête au vinaigre de cidre des tonnes de bienfaits. Alors, ce produit grand-mère qu'on appelait l'élixir de jouvence quand même, hein, il est revenu à la mode, c'est vrai. Alors, il y a des stars comme Kourtney Kardashian, Jennifer Aniston ou encore Gwyneth Paltrow qui ne jurent que par ce produit. Mais comme je ne leur fais pas une confiance totale et absolue
non plus.
Pour me dire ce qui est bon pour ma santé, j'ai voulu vérifier, j'ai décidé d'aller gratter un petit peu derrière le discours marketing, on va dire.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans du vinaigre de cidre, du vinaigre et du cidre, qui pourrait nous expliquer que c'est bon pour notre santé? Je sais pas, c'est lié aux vitamines de la pomme, par exemple ou...
Alors, j'ai pensé exactement, les vitamines, les minéraux, bon, les doses, en fait, dans le vinaigre de cidre, elles sont très, très, très faibles. Certains fabricants de vinaigre de cidre mettent en avant notamment la teneur en potassium. Alors, j'ai fait un petit calcul. Hein. Normalement, on doit avoir 3500 mg d'apport en potassium recommandé par jour. Si vous confiez ça au vinaigre de cidre, il faut en boire 4 litres par jour. Vous voyez?
Ah oui. Beaucoup.
Il y a d'autres apports en potassium, évidemment, mais voilà, il ne faut pas compter là-dessus. Quant à la fameuse pectine, vous savez, qui a une action sur le cholestérol, la glycémie, qu'il y a dans la pomme. Elle est bien présente dans la pomme, mais dans le vinaigre de cidre, une fois qu'on l'a réduit, il n'y en a pas. Donc, on oublie.
Donc, à quoi ça sert?
Alors, mais quand même, je continue. Les bienfaits, en fait, ils viennent surtout du fait que le vinaigre, il y a de la fermentation qui permet de transformer le jus de pomme en alcool, puis le cidre en acide acétique. Et cet acide acétique, elle a des propriétés, ça c'est connu, c'est reconnu, des propriétés antimicrobiennes. Mais ça, c'est vrai de tous les vinaigres. Alors, celui à la pomme, il a la particularité, lui, de contenir notre acide, l'acide malique, qui a des bienfaits reconnus au niveau du foie.
Bon, alors si c'est bon pour le foie, est-ce que bah, du coup on va digérer mieux par exemple en consommant du vinaigre de cidre?
Alors je vois que vous suivez évidemment.
Bah oui.
Et on sait que les produits fermentés comme la choucroute, le kéfir,
très bon pour le microbiote.
Voilà, c'est bon pour le microbiote, ça améliore la digestion. Donc bah, pourquoi pas le vinaigre de cidre, hein? Alors j'ai posé la question à Laetitia Proust-Milon qui est diététicienne nutritionniste.
Il y a l'acide malique notamment qui est reconnu un petit peu pour son aspect un peu détoxifiant, donc qui joue un peu sur le foie, qui facilite un petit peu, qui booste un peu le travail du foie. Après, les acides en eux-mêmes vont avoir un effet un petit peu ce qu'on appelle protéolytique, donc qui vont aider à digérer plus facilement les protéines, qui vont accélérer l'effet digestif. Dire qu'on va supprimer, parce que ça on le lit aussi, les flatulences avec le vinaigre de cidre, bon, peut-être que ça peut aider à digérer.
Et en termes de perte de poids, Cécile, moi j'ai entendu dire que ce serait efficace.
Alors oui, moi aussi j'ai entendu dire, certaines marques n'hésitent pas à dire que c'est un excellent coupe-faim. Bon, alors déjà, globalement, si vous avalez votre vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau avant le repas, bah, évidemment, hein, on le sait que le verre d'eau avant le repas, ça a un petit effet coupe-faim.
Donc, avec ou sans vinaigre, en
avec
fait.
Avec ou sans vinaigre, exactement. Alors, il y a quand même, j'ai regardé, il y a quand même quelques études sur l'effet du vinaigre de cidre sur la perte de poids. Elles montrent en fait que ce vinaigre, il a tendance à réguler un petit peu la glycémie, c'est-à-dire le glucose qu'il y a dans le sang. Du coup, l'insuline est moins stimulée, ce qui fait que ça diminue finalement la transformation des sucres en graisse et on stocke moins. Donc voilà. Et en plus, moins de pics de glycémie, eh bien, du coup, on peut avoir un petit peu moins, possiblement, de fringales.
Écoute, moi, si je comprends bien, ça peut. Oui, Edouard, ça
vous tente. Si on fait un burger frites derrière avec un moelleux au chocolat, on a beau avaler un petit.
Oui, voilà, ça, c'est autre chose.
Mais non, moi.
Si je comprends bien, ça peut aider si je continue à faire du sport, à manger équilibré et pas des gros burgers comme Edouard. Sinon, moi, je mets quelques gouttes de vinaigre pour bien laver ma salade. Est-ce que c'est utile, ça, par exemple?
Ah oui, alors ça, c'est tout à fait utile. Vous avez raison, puisque c'est efficace contre les bactéries. Et pas que sur la salade, globalement, si vous avez un petit mal de gorge, enfin qui pointe, surtout en ce moment, il y en a pas mal, eh bien un petit grog à base de vinaigre de cidre, ça peut vous aider à lutter contre le rhume. Maintenant, évidemment, tout est question de dosage. Hein. Il faut en consommer avec modération, évidemment.
Pas 4 litres.
Pas 4 litres, comme nous le recommande Laetitia Proust-Milon.
Il faut faire très attention parce que ça reste de l'acide et que, en fait, le corps ne peut pas ingurgiter trop d'acide. Donc, c'est toujours déjà précaution, prendre toujours dilué. Pas de vinaigre de cidre pur. C'est souvent une cuillère à soupe pour un verre d'eau. On peut aller jusqu'à 3 fois par jour sur des courtes périodes. Moi, je ne ferai pas une préconisation sur une cure, notamment de 1 mois, avec à 3 fois par jour. Par
exemple. Ah non.
Voilà, on y va mollo.
Et c'est
pas recommandé à tout le monde, évidemment, parce que si on souffre d'ulcère, de gastrite ou encore de reflux,
vous voyez, vous pouvez pas, Edouard,
hein,
c'est impossible. Avec ce que vous...
Moi, je suis pas super convaincu. Ouais.
Voilà, non, là pour enfin, ces personnes-là, bon, mais... pour ces personnes-là, il faut pas le prendre. Les diabétiques aussi doivent faire attention parce que je vous ai dit, ça a un effet sur l'insuline, la glycémie. Donc on évite. Et ceux qui prennent des médicaments diurétiques, ils doivent pas en prendre non plus.
Voilà. Ah, d'accord. Donc en résumé, le vinaigre de cidre, ça a quelques bienfaits, mais il faut pas non plus en attendre des miracles. Et après, j'imagine que si on est quand même motivé, on n'achète pas n'importe quel vinaigre.
Oui, alors ça c'est très important. La nutritionniste que j'ai interrogée, hein, a d'ailleurs bien insisté sur ce point. Pour conserver toutes ces vertus, il y en a quand même quelques-unes, hein, je vous les ai exposées, il faut prendre un produit bio, non filtré et non pasteurisé. Sinon, vous n'avez plus rien dans votre vinaigre de cidre qui est bon. Alors, vous avez la marque française Archie qui travaille en cycle court, qui n'utilise pas de plastique, tous les contenants sont du verre recyclable et qui se fournit auprès de petits producteurs. Donc ça, c'est très bien. Il y a une marque très connue dans le domaine qui s'appelle Bragg qui fait un peu référence. Une autre marque, Great Vita, qui est bien aussi, qui produit des bons vinaigres de qualité, mais eux, ils ne sont pas français. Donc un petit plus pour Archie.
Allez. Eh bien, merci
une
Cécile.
Une pomme, c'est pas mal aussi.
Vous
non
avez bien une pomme.
Moi, j'appelle le Keep the Doctor Away, vous savez. Une pomme par jour et le
Il n'y a pas la fermentation.
Et qui disait manger des pommes?
Il n'y a pas la fermentation à l'arrêt.
Je n'ai pas bien écouté.
Okay.
C'est qui disait manger des pommes? Jacques Chirac.
Ah, voilà.
Allez, merci Cécile pour toutes ces infos sur le vinaigre de cidre. Il est temps d'aller de refaire la cuisine maintenant, de revoir la déco du salon, parce que ça c'est important également, la déco. Et puis Mélanie, si on changeait aussi les rideaux de la maison.
Dans le studio, il n'y en a pas, mais on pourrait peut-être en installer.
Ouais. Edouard, alors apparemment on fait sa propre déco avec ses petites mains, on vous écoute.
Oui, écoutez, dans le prochain numéro de Elle, qui sort en kiosque d'ailleurs aujourd'hui, la grosse tendance, ça ne vient pas d'Hollywood, ou ce n'est pas du glamour qui vient de la Fashion Week qui s'est achevée. Figurez-vous que le truc hyper hype, c'est de faire sa déco soi-même, c'est le fait main, c'est le homemade, un peu l'équivalent du fait maison en cuisine. Donc l'idée, c'est de fabriquer une table, une lampe de chevet, coudre des rideaux, donc on est sur un truc super moderne. Moi, tous mes dimanches d'hiver sont calés, personnellement. Ça vous tente, vous, le bricolage déco
pas
ou pas sur la
table? Envie de crever.
Pas du tout.
Mais pourquoi pas? On va peut-être apprendre des trucs. Bon. Edouard, comment vous expliquez cette envie-là du do-it-yourself qui n'a pas encore touché Julia et moi, mais qui
ben
sait,
oui, mais ça viendra écoutez, peut-être ça a touché les gens les plus branchés, comme on dit, actuellement. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, évidemment, le premier facteur, c'est la crise énergétique. Ça, c'est très simple. Qui dit prix des matières premières qui flambent, dit évidemment que le prix des objets de décoration flambe aussi. C'est très simple. Mais il y a aussi un truc un peu plus subtil, c'est que notre rapport au temps a changé depuis les confinements et le télétravail. Hein, globalement, ça nous rend un petit peu plus disponibles pour aller bricoler une petite étagère, dans le garage. Moi, je vous vois bien, Julia, l'après-midi, là, entre deux crises de rangement.
Ah oui, quand j'ai mes tables de rangement, on attaque,
bien ranger
les outils.
Voilà.
Pourquoi pas?
En tout cas, il s'agit vraiment d'une lame de fond, hein, parce que ça touche même les jeunes. Alors là, ça m'a surpris. J'ai lu des études comme quoi les millennials, vous savez, ces gamins qui sont nés autour des années 2000,
qui ont
20 quelques années, voilà, adorent ça. Ils adorent aller chez Monsieur Bricolage, chez Casto, chez Leroy Merlin. Moi, à 20 ans, j'aurais plutôt mourir que d'aller traîner au rayon colle à bois.
Ah, mais plutôt crever,
enfin,
oui, c'est ça.
C'est la grosse tendance du moment.
Et quand comment on fait alors
quand on passe à l'action,
voilà, mais il paraît qu'il y a des avantages bien sûr économiques, ça on l'a compris, mais aussi psychologiques, ça?
Bah écoutez, effectivement, alors au-delà des économies qu'on peut évidemment faire en bricolant soi-même, il semblerait que ça fasse vachement de bien au moral. En fait,
vous hochez la tête, c'est-à-dire que vous faites vos rideaux?
Non,
vous-même,
pas du tout.
J'ai l'impression que vous êtes aussi dubitatif que moi avec votre cidre.
Non, je fais pas du tout. Moi-même, je suis pas très. Ouais. Je trouve ça super, mais ma fille fait ça. Elle a 22 ans. Hein, ouais, elle a transformé un tabouret, elle l'a recustomisé et il est nickel, quoi.
En gros, les psys expliquent ça très simplement. Ils disent que faire soi-même un meuble à chaussures, par exemple, on a un sentiment d'autonomie, on reprend conscience en soi. Parce qu'on a fait quelque chose de chouette.
On n'a plus le moral dans les baskets.
On a rangé les baskets dans le meuble à chaussures. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir une certaine fierté. C'est assez gratifiant d'avoir fait quelque chose de ses mains. Et puis aussi, quand on passe toute la journée, comme nous tous, comme nombreux d'entre nous, et comme vous, les auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, devant l'ordinateur toute la journée, ça vide la tête quand même de faire quelque chose de ses mains.
Mais
ça évacue le sentiment négatif. Il y a même une étude très sérieuse, dans le British Journal of Sports Medicine qui dit que ça participe au bon fonctionnement cardiaque, à l'entretien des articulations et des capacités mentales, effectivement.
Et puis, voilà, moi, je pense quand même, pour défouler son agressivité, avoir une bonne perceuse visseuse à la main, ça doit faire beaucoup de bien.
Oh, alors, je sais ce que je vais vous offrir cet été pour votre anniversaire.
Et justement, si j'ai envie de passer à l'action, Edouard, je débute par quoi?
Il faut une bonne trousse à outils, comme pour chaque bon élève. Hein. Alors, il faut commencer avec les outils de base, marteau, tournevis, ça, a priori, chacun ça chez soi. Il faut tout ce qui protège, se protéger soi, c'est-à-dire les lunettes, si on attaque à la scie sauteuse, c'est quand même mieux. Et puis les gants, etc. Mais surtout une grande bâche. Vous savez, quand on vit comme nous à Paris dans des appartements, bricoler à la maison, c'est pas pratique. On n'a pas de garage, pas de jardin. Donc une bonne grande bâche dans le salon. Vous êtes content, votre mari, quand vous allez attaquer l'étagère cet après-midi. Une perceuse visseuse, ça c'est vraiment la Saint-Valentin, j'ai envie de dire, les filles.
Ah oui, hein, pas bon. Ça ne me déplairait pas.
Ça ne vous dirait pas une bonne perceuse visseuse hein, pour le 14 février?
Et si je veux décaper mon parquet, ça aussi, ça c'est
cool. Et j'ai envoyé un texto à votre mari pour lui suggérer l'idée. Hein.
Bah, on va faire pareil avec le vôtre.
Oui, bah, pourquoi pas. Non, moi, j'ai pas dit que j'étais tentée.
On peut louer du matériel aussi.
On peut louer du matériel pour le matériel le plus lourd ou le plus cher. Une scie sauteuse, puis effectivement, il faut toujours un peu de peinture, un peu de colle. La base.
Bon, il y a 6 idées de fait main, justement, dans le L.
Alors, dans le L qui sort aujourd'hui en kiosque, 6 idées d'objets fait main réalisés soi-même. Alors, il y a plusieurs niveaux de capacité. Soit on peut le faire tout seul, soit il faut suivre un tuto en ligne, soit il faut faire un stage avec l'aide d'un pro pour vraiment faire un joli objet. Je vais vous énumérer les 6, on va faire un petit jeu, peut-être qu'on peut même faire participer notre ami
Romain
des Arbres qui arrive en studio.
Est-ce que vous êtes bricoleur, Romain?
Alors, pas du tout.
Comme vous êtes ringard.
Alors, on va faire un jeu, je vais énumérer les 6 objets, les 6 activités de décoration à faire soi-même. Vous allez me dire si vous faites ou vous ne faites pas. Retapisser un canapé.
Jamais de la vie.
Romain, peindre une fresque murale à la place d'acheter du papier peint.
Non plus.
Ok. Fabriquer un tapis tufté.
Non, merci.
Personne maîtrise le tufting.
Non, mais j'en ai vu sur les réseaux sociaux, ça a l'air génial.
Je sens que vous avez envie de tufter.
Ah, grave.
On va tufter ensemble. Coudre un plaid en patchwork comme Cécile. Une vieille anglaise.
Ah non, mais ça ne m'attend pas.
Pas non plus.
Ça.
C'est les jeunes, c'est pas nous. Mais allez, maçonner une étagère, Romain, s'il vous plaît.
Je connais même
maçonner.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est sexy.
Allez, enfin, personnaliser son carrelage, moi ça je prends.
Ma fille de 5 ans le fait très bien.
Quand on loue un appartement moche avec des carrelages moches, on peut.
Ouais. Voilà, excusez-moi, alerte. Il paraît que, Edouard, vous faites vous-même vos bougies. C'est quoi cette histoire?
C'est la fin du reportage, du fameux reportage dans Elle. Ça se finit en beauté. Figurez-vous que les bougies, ça coûte maintenant un prix fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a acheté une jolie bougie. Il faut se couper un bras. Donc en fait, il y a une page qui est consacrée à une activité, faire ses bougies soi-même. Très jolie, parce que c'est des bougies avec des couleurs. Je sais pas, il faut les tremper dans des trucs. Bon, moi j'ai essayé.
Vous voulez pas qu'on aille ensemble un stage de bougies? Ce serait chouette.
Plus sérieusement, deux secondes, mais on fait énormément d'économies quand on est bricoleur.
C'est tout. On fait des économies et on se fait du bien au cerveau et au rythme cardiaque. Enfin, c'est comme le vinaigre de scie, c'est quasi
positif. Vous les avez allumées vos bougies ou pas?
J'attends le petit dîner aux chandelles. Quand je dis aux chandelles, c'est pas le club des chandelles. C'est
qui a fermé, vous le savez. Merci beaucoup, Edouard. Merci également à vous, Cécile. Il est presque midi. Notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un chouette moment sur Europe 1. On vous retrouve bien sûr demain à 11h. Et Mélanie, quel sera notre sujet du jour?
Un sujet de santé publique très important qui concerne des millions de Français, la migraine, les maux de tête. On a décidé de vous expliquer comment ne plus vous prendre la tête, comment surtout soulager efficacement la douleur. Et puis, on fera aussi le point sur de nouveaux médicaments qui suscitent beaucoup d'espoir pour les migraineux. Ce sera un dossier en partenariat avec le Figaro Santé.
Et bien pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme?
Alors, on va parler de travail. Tiens, il y a certaines entreprises qui mettent en place le 4 jours par semaine, la semaine de 4 jours. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça veut dire que les Français veulent moins travailler? On va en parler avec vous au 3921 et avec le responsable d'une étude sur le sujet, une étude de l'Institut Montaigne. On va parler également inflation super. Lance son panier anti-inflation. On sera avec le porte-parole de Système U qui va tout nous dire. Et puis on parlera de la sécurité routière également et du nombre de morts à vélo qui a sacrément augmenté. On verra comment faire baisser ce chiffre. Voilà le programme.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.